Merci Seigneur de que oui Seigneur que l'idée que tu veux faire passer Seigneur passe et qu'elle ne soit pas noyée par ce qui viendrait de moi Seigneur. J'implore Seigneur ton Esprit Saint au milieu de nous afin que nous ayons un cœur ouvert, un cœur obéissant dans le nom du Messie Jésus-Christ. Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 11 au verset 25. Matthieu chapitre 11 verset 25. Vous y êtes? Matthieu chapitre 11 verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous connaissez tous ce passage ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous donnerez du repos. Généralement, le passage, on l'arrête là, parce que la suite, on le zappe, parce que c'est moins drôle. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le fardeau, le joug, c'est plutôt le contraire du repos, je pense. Ça veut dire qu'il va falloir bosser. Mais ce n'est pas le thème. Le thème, c'est le repos. Le repos de Dieu. Le thème, c'est le premier passage. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Qui sont les sages ? Qui sont les intelligents à l'époque de Jésus? Parce que bon, c'est pas au XXe siècle, hein, c'est à l'époque de Jésus, qui étaient les sages et les intelligents? Ben, c'était toute cette école qu'on appelait pharisienne et sadducéenne, qui était autour du temple et qui passait leur journée entière à étudier la Torah, la parole de Dieu. Il y avait des sages, des vrais intelligents, des vrais théologiens, mais qui sont pour la plupart, pas tous, mais une partie de ceux-là ont vu passer le Messie, mais ne l'ont pas reconnu. Pourtant, il est écrit dans toutes les lignes de la Bible, hein, puisque je vous ai déjà prêché sur les images du Messie. Un tant soit peu, si on lit la Torah, on a le Messie à toutes les pages. Et là, ils ont le Messie sous les yeux. Ils sont sages. Ah, ils connaissent tout. Hein. Ils ont fait l'hébreu biblique, l'araméen, le grec. Ils ont fait théologie, première année, deuxième année, troisième année. Et qui c'est qui a vu le Messie ? Les enfants. Tu as caché les choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'un enfant ? C'est un petit, oui. Est-ce qu'un enfant est sage ? Non? Oui? Alors qu'est-ce que c'est qu'un enfant sage? Là, je m'adresse aux enfants. Qu'est-ce qu'un enfant sage? C'est pas celui qui a fait théologie. Hein. Quelqu'un qui obéit. Ah! Qu'est-ce qu'on attend d'un enfant? Qu'est-ce qu'on attend d'un enfant? C'est l'obéissance. Et il y a l'apôtre Paul qui disait, enfant, obéissez à vos parents. C'est un des rares commandements qui est adressé aux enfants avec celui d'honorer son père et sa mère, afin que tu aies des jours heureux et tes jours qui soient prolongés sur la terre. C'est dans les 10 paroles de Dieu. L'obéissance. La sagesse, l'obéissance. Alors on va lire dans Jacques. J'aime bien l'épître de Jacques, on a déjà prêché plusieurs fois là-dessus. Au chapitre 1. Au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que cette sagesse? C'est l'obéissance. Les deux vont de pair. Il y a deux sagesses en fait. Il y a la sagesse humaine, on va dire sagesse terrestre, et la sagesse qui vient d'en haut. Et là, Jacques parle de la sagesse qui vient d'en haut. On peut continuer à lire. Bon, après, vous connaissez le chapitre 2. Alors, dans Jacques 1, au verset 19, on peut lire « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Entendre la parole, la différence entre un sage qui est une sagesse terrestre et un sage selon Dieu, c'est tout simplement le sage terrestre, c'est comme les sadducéens, les pharisiens, les théologiens, ils connaissent la parole, ils l'ont entendue, mais ils ne la mettent pas en pratique. On va faire l'école du dimanche. Le fou sur le sable a bâti sa maison. La tempête arriva, le vent souffla et la pluie tomba. et la maison s'effondra. Le sage sur le roc, qui c'est le roc? C'est Jésus, a bâti sa maison. Et rien ne peut lui arriver. La sagesse implique une mise en pratique. Et une mise en pratique vient d'une obéissance. Ça ne sert à rien que j'arrive ou que Marc ou que Vincent ou d'autres prédicateurs prêchent la même chose tous les dimanches s'il n'y a aucune mise en pratique. On perd notre temps, je perds mon temps. Et pour moi, dans ma vie privée, hein, je pas, si j'écoute la parole, si je lis la parole, ça ne sert à rien de lire la parole, de perdre du temps à lire la parole, je le dis comme ça, si je ne la mets pas en pratique. Il vaut mieux aller regarder la télé. Maintenant, la parole doit être mise en pratique. Alors vous allez me dire, ouais, c'est compliqué. On peut lire l'importance de l'obéissance pour Dieu. L'importance de l'obéissance pour Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il y a des degrés de spiritualité successifs? Dans le sens qu'il y a une communion, quand vous êtes en communion, vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, il y a une communion spirituelle qui se fait, si vous l'avez accepté de tout votre cœur. Il n'y a pas de degré successif, il n'y a pas de chrétien, on va dire, charnel, et de chrétien spirituel, il n'y a qu'une seule onction, une seule communion, une fois pour toutes, et elle est, je dirais, full time, c'est-à-dire pleine, en plénitude. Quand vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez une communion spirituelle en toute plénitude. Et Dieu ne purifie pas petit à petit du péché. Vous comprenez ce que je veux dire? On croit que la marche chrétienne, c'est quelque chose de dur, et voilà, Dieu nous purifie petit à petit, non? Spirituellement parlant, Dieu nous a purifiés totalement du péché. Et si on marche dans la lumière et dans l'obéissance, on a une communion parfaite. Ce qui fait les différences entre les chrétiens, des fois, c'est justement l'obéissance. C'est on sait, mais on verra ça plus tard. Toute la révélation de Dieu, et je le dis comme ça, toute la révélation de Dieu est morte s'il n'y a pas d'obéissance. Par contre, si nous obéissons sans trop nous poser de questions, nous aurons la révélation de Dieu. Parce que l'obéissance amène à la compréhension et à l'intelligence. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est dans Proverbes 9, 10. Et si vous avez des doutes, c'est aussi dans Psaume 111, verset 10, pour ceux qui notent. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ou le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Oh. Je pose une question. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? On est interactif, hein, je ne suis pas tout seul à parler quand même. Oh. Oui, ça je viens de le dire. Là, l'obéissance à sa parole. Alors on va lire Proverbe 8. C'est bien les proverbes, j'aime bien les proverbes, moi. Oui, j'aime bien tout. Proverbe, c'est l'histoire de la sagesse, c'est la sagesse qui est personnifiée, qui crie. Proverbe 8. Est-ce que je lis tout? Au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. De l'arrogance, de l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Un peu plus loin, après, il est dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La sagesse, c'est la première des œuvres de l'Éternel. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore rien fait, ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Sagesse personnifiée, la première des œuvres. S'il y en a qui doutent, on peut lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Verset 19. Plutôt, 1 Corinthiens 1, 19. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On a parlé des enfants tout à l'heure. Les choses faibles du monde, les enfants étaient plus près du royaume de Dieu que les théologiens. Et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. La sagesse qui était dès la fondation du monde, c'est le Messie, c'est Jésus qui était là dès la fondation du monde et qui rien n'a été fait sans lui, parce que tout a été fait par lui, en lui et pour lui. Alors, si vous voulez la sagesse, demandez-la à Dieu, qu'il la donne à tous, sans reproche, parce qu'on manque tous de sagesse, hein, ne vous inquiétez pas, on manque tous d'obéissance aussi. Mais l'obéissance, c'est la route pour la sagesse. Dans Jacques, je vais repartir dans l'Ancien Testament, dans Josué. Allons-y. Et on va se remettre dans une, je dirais, dans l'esprit chrétien du 20e siècle, du 21e siècle, pardon, en lisant ce passage. Josué chapitre 3, alors Josué chapitre 3, c'est un passage primordial dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est au moment où ils vont traverser le Jourdain. Tout à l'heure j'ai entendu parler, j'ai trouvé ça amusant. Parler de traversée de la mer, il y a eu une autre traversée, c'est celle du Jourdain. Donc le peuple n'était pas encore en terre promise, il était en face, il y avait Jéricho en face, il fallait traverser le Jourdain. Alors pour ceux qui connaissent le Jourdain, ils vont dire c'est facile à traverser, on a de l'eau jusque là, on a pied. Mais il faut de l'eau jusque là, ça mouille. Et là, moi je serai Josué. Je ferai une réunion de prière avec tous les anciens, pasteurs et tout ça. Venez, venez, on va prier pour que le Jourdain s'arrête. Comme ça, on peut traverser. Parce que Dieu nous a dit de traverser, mais là, on ne peut pas traverser. Parce que le Jourdain, en plus, il est dit qu'il était en crue à ce moment-là. Donc, ils n'avaient pas pied. Moi, je prie pour que le Jourdain s'arrête. Et quand je vois que les eaux baissent, j'y vais. Enfin, moi, je dis ce que je fais, hein, c'est ma foi, hein, j'y vais. Là, c'était différent. On va le lire. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, l'arche de l'Alliance, hein, donc c'est un grand coffre en or, il doit peser lourd quand même, parce qu'ils étaient quand même plusieurs à le porter, et que leurs pieds se furent mouillés. Ah, verset 15, pardon. Josué 3, verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, donc c'est ce qu'il a, regorge au-dessus de toutes ses rives, ce qu'il était en crue. Tant de moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, la mer morte, hein, furent complètement coupées, et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel et s'arrêtaient de pied ferme sur le sec, au milieu du fleuve, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que la nation eût achevé de passer le Jourdain. Obéissance. C'est quoi l'obéissance là? C'est Dieu t'a dit de traverser pour aller de l'autre côté. C'est juste impossible. Tu vas te mouiller. Et je pense que dans la foi, dans la vie chrétienne, des fois il faut savoir se mouiller. Tu vas te mouiller. Les sacrificateurs qui avaient l'arche qui pesait quand même je ne sais pas combien de kilos. Nager avec l'arche de l'Alliance, je ne pense pas que ça pouvait se faire. Ils rentrent dans le Jourdain, ils ont les pieds mouillés, dirais presque jusqu'aux genoux. Mais tout d'un coup, le fleuve baisse au moment où ils sont rentrés. S'ils étaient restés sur le bord du Jourdain à attendre que le fleuve baisse, je pense qu'ils y seraient encore. Pas en bon état, mais ils y seraient encore. L'obéissance. C'est une image, hein. Une autre image que d'obéissance dans la Bible, c'est Abraham. Dans Genèse 22, au verset 18. On va commencer au verset 16 même. Et dit, l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même. Ce n'est pas une petite parole, hein, Dieu qui jure par lui-même. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que quoi ? Tu as obéi à ma voix. Il y en a un qui n'a pas obéi à sa voix, un autre. Pourtant, on n'y arrive pas à sa cheville, c'est Moïse. Il avait obéi, et puis par manque de patience, parce qu'il avait une sacrée bande de pénibles autour de lui, à un moment, il s'est un peu fâché, et il a frappé une deuxième fois le rocher, alors que Dieu lui avait demandé de parler au rocher. C'est du détail, hein. Mais ce détail-là a fait qu'il n'a pas été présent au moment où l'Arche de l'Alliance a traversé le Jourdain. C'est du détail, mais ce n'est pas vraiment du détail pour Dieu. Parce que comme tout ce qui est écrit est l'image du Messie, comme je vous dis, le Messie dans toutes les pages, toutes les lignes, tous les chapitres de la Torah, pourquoi il ne devait pas frapper une deuxième fois le rocher ? Parce que le rocher, c'est le Messie. Il a été frappé une fois, il ne sera pas frappé deux fois, parce qu'il a été frappé une fois pour toutes. Et Moïse, en frappant une deuxième fois le rocher, celui qui donnait l'eau au peuple, eh ben, il n'a pas respecté la parole de l'Éternel. Et malgré sa repentance, malgré tout ce qu'il a pu dire, tout faire, s'implorer le Seigneur, il n'a pas hérité de la terre promise. Est-ce que vous pensez que ce Dieu-là, il a changé ? Il est devenu pote avec nous ? Parce que, non. Au contraire, bien au contraire, nous qui connaissons le Messie, à combien plus forte raison nous devons craindre l'Éternel. Dans Matthieu 10, il est dit, au verset 16, il est dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Prudence, c'est aussi un titre de sagesse. La sagesse, c'est être prudent. Alors prudence, ça veut dire, ça contredit ce que je dis, parce que là, prudence, s'il faut être prudent pour traverser le Jourdain, là, non. Mais prudence, c'est de faire attention à tout ce qui est de ce monde. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents. Et des fois, quand je vois l'image que les chrétiens donnent au milieu du monde, j'ai honte des fois quand je vois sur Facebook ce qui se passe, où les gens se disent chrétiens et ils sont sages, ils sont. Des fois je me demande si le christianisme consiste à savoir où est la marque de la bête ou si c'est suivre Jésus-Christ. La marque de la bête, elle est partout. Elle est dans le ciel avec les chemtrails, elle est dans le vaccin, elle est sur le code-barre, elle est dans ta bouffe, elle est partout. Et c'est des chrétiens, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Des complotistes de toutes parts. On peut chacun avoir son avis, mais la sagesse veut que on ne l'exprime pas. Chacun, on peut être pour le vaccin, contre le vaccin, chacun a son avis, tout le monde est libre. Mais il n'y a pas de... Voilà. Quelle image donnez-vous aux personnes qui vous entourent? La seule image qu'on doit donner, c'est celle de Jésus-Christ. Et obéir à ce qu'il nous donne. Jacques, on va retourner chez Jacques pour conclure. Au verset 13, la sagesse, le titre c'est la sagesse qui vient d'en haut. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Point d'interrogation. Qu'il montre alors ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous savez qu'il y a 40 000 dénominations chrétiennes qui se réclament tout au moins du christianisme? 40 000. Bonjour l'esprit de dispute. Alors que Paul dit qu'il y a un seul esprit, un seul baptême, un seul corps. 40 000. Les juifs, ils font pas mieux. Hein. L'esprit de dispute, là, c'était les disputes qu'il pouvait y avoir entre les grands maîtres pharisiens, entre Gamaliel, entre Hillel, entre Shammai, il portait bien son nom, celui-là, qui passaient leur temps à se chamailler. Ça vient peut-être de là, d'ailleurs, le terme chamailler. Tout ça parce qu'il est écrit que on n'a qu'une seule, une seule Bible, une seule Torah, mais on a 40 000 dénominations. Vous voyez ce que c'est que la sagesse d'en bas? On se croit sage, hein? Ah, parce que ce mot-là est hébreu, il veut dire ça, et que l'autre il dit non, non, pas tout à fait ça. Ça, c'est la sagesse d'en bas. Par contre, la sagesse d'en haut, c'est quoi? Au verset 17, est premièrement pur, ensuite pacifique. Merci. Désolé. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse d'en haut, c'est la fameuse sagesse que Jacques parlait. Si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu qui vous la donnera sans reproche. C'est cette sagesse-là qui est parlée. Pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. Il est dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Miséricorde, c'est avoir des entrailles de compassion. Les parents qui ont eu des enfants savent ce que c'est que d'avoir des entrailles de compassion. Quand tu as ton gamin qui se fait mal et qui pleure. Miséricordieux. Dieu le dit, d'ailleurs c'est écrit aussi dans l'Ancien Testament, que Dieu a des entrailles aussi pour son peuple et pour ceux qui le craignent. Et le terme hébreu pour entrailles, quand c'est traduit comme ça, c'est utérus. C'est l'entraille d'une femme. C'est vraiment la compassion que peut avoir une femme au moment de l'enfantement. L'entraille de Dieu, c'est vraiment ça. C'est l'amour, mais l'amour maternel, quasiment. On dit que Dieu est le Père, mais sachez que Dieu, il est aussi la mère. On le voit toujours comme le vieux barbu, un homme. On peut le voir aussi comme une femme. En hébreu, c'est beaucoup moins clair que ce soit un homme. C'est aussi, il a les deux aspects. D'ailleurs, il a créé Adam, mâle et femelle. Et il y a les deux aspects. Et Dieu englobe les deux. Soyez plein de miséricorde, portez de bons fruits. Soyez exemple de duplicité. Duplicité, c'est quoi? C'est un manque de sanctification. La sanctification, ça veut dire quoi? La mise à part? Et ne pas avoir de cœur partagé. Ne pas avoir de cœur partagé. L'obéissance est quelque chose de très important. Hébreux 10. Au verset 5. C'est pourquoi le Messie entrant dans le monde, donc quand il était avant de sa naissance, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre où il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, que l'on offre selon la loi, il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit aussi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de sa volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute: je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Car or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Avant même que Jésus arrive sur terre, il dit cela: tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le seul but, c'était le sacrifice suprême pour nous purifier, nous sanctifier du péché. Et dans Hébreux 5, parce que ça c'est au verset 8, il dit, au verset 7 même: c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc au moment où il était sur terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes, qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, et c'est très important, ce est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, nul Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été élevé à la perfection parce qu'il a obéi. Il est l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. L'obéissance n'est pas une option. La sagesse n'est pas une option. La crainte de l'Éternel n'est pas une option. Si vous avez ça en option, vous êtes dans la sagesse terrestre. Et la sagesse terrestre, vous croyez être en communion spirituelle, mais en fait, vous avez une religion. Et beaucoup de gens ont préféré avoir une religion qu'une communion spirituelle. Si vous voyez ce que je veux dire. La religion, c'est bien, hein ? Ça permet de vivre en paix avec son cœur et avec son âme, en disant on va s'arranger là-haut. J'ai fait les choses bien, je pense qu'on peut négocier. Dans la Bible, il y a dit qu'il n'y a aucune négociation possible. La seule négociation, c'est ce que a fait le Messie. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, un salut, l'auteur d'un salut éternel. On peut mettre ce passage-là en parallèle avec le Samuel, 1 Samuel 15. Samuel chapitre 15 et au verset 22. Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance à sa parole, parce que des fois on ne désobéit pas, mais on résiste, hein, n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Théraphimes, c'est des idoles, hein, des petites idoles portatives. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, parce que je n'ai pas obéi à tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. C'est Saül qui se fait rejeter par l'Éternel en tant que roi d'Israël, parce que lui aussi n'a pas obéi. Pourtant, quand on regarde le contexte, on pourrait dire celui-ci pourrait avoir le prix Nobel de la paix à l'ONU, parce qu'il a épargné Agag, il a épargné le peuple, enfin il a pas fait de génocide, quoi. Il n'a pas fait de génocide. Il pourrait avoir le prix Nobel de la paix, hein, dans la sagesse du monde. Ah, maintenant, j'imagine les médias. Ah, mais attends, il va être nommé prix Nobel de la paix. Pourtant, pour Dieu, il est rejeté. Et pourquoi il est rejeté ? Vous connaissez la conséquence de ça ? C'est l'histoire d'Esther. Parce que Haman Il était Agadite. C'était un des descendants d'Agag. Et si Saül avait trucidé tout le monde à ce moment-là, il n'y aurait pas eu l'histoire d'Esther et le grand risque que le peuple d'Israël a encouru à Suse. L'obéissance, sans se poser de questions. Il y a obéir, alors il y a obéir en se posant des questions, ça c'est bien. C'est déjà mieux que ne pas obéir. Mais il y a encore plus loin, plus beau, c'est l'obéissance sans se poser de questions. C'est vraiment là-dessus que je vais m'arrêter là. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu sans se poser de questions? Bien sûr, ce n'est pas non plus faire la tête brûlée. Quand on obéit à Dieu, c'est qu'on a entendu quelque chose de Dieu quand même. Ce n'est pas de foncer dans le brouillard. Ce n'est pas foncer dans le brouillard, mais d'un autre côté, ce n'est pas décortiquer les choses en long, en large, en travers pour savoir si je dois obéir. Il y a une chose que j'ai appris chez les Juifs de maintenant, c'est quand c'est écrit, c'est écrit. On ne se pose pas de questions. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça, mais c'est écrit. Et si je ne comprends pas pourquoi je fais ça et c'est écrit, je le comprendrai plus tard. Mais je ne cherche pas à comprendre avec ma petite tête et mes petits neurones pour savoir pourquoi c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Et souvent, je trouve que quand je fais comparaison chez les chrétiens, on obéit que si on a compris. C'est pas ça tout à fait ce que Dieu veut. C'est on obéit parce que Dieu nous le demande. Et que c'est écrit, bien sûr. Mais on obéit. Et moi, souvent, ça m'est arrivé dans ma vie chrétienne, d'obéir sans comprendre. Et c'est une fois que j'ai commencé à faire le premier pas, que j'ai compris que le truc se déroulait. C'est déroulé devant moi comme un tapis qu'on déroule. Mais tant que je n'avais pas fait le premier pas, je ne comprenais pas. J'aurais pu rester aussi toute ma vie à ne pas comprendre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es celui qui est la source de toute chose, qui est la source de la sagesse. Tu es celui qui nous a envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver, Seigneur, et nous rendre participants à un salut éternel. Seigneur, ce que tu demandes,